Et c'est l'heure de nos nouvelles arts et spectacles de fin de journée, de fin d'émission. Valérie Roberts, commençons par l'histoire de Mike Ward. La Cour suprême accepte de l'entendre.
Oui, c'est en 2016 que la Cour d'appel avait condamné l'humoriste Mike Ward à verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel parce qu'il s'était moqué sur scène de son handicap. Le tribunal venait juste de confirmer la décision qu'avait rendue le tribunal des droits de la personne. Mais là, aujourd'hui, on a appris que la Cour suprême du Canada a accepté d'entendre la cause de l'humoriste Mike Ward qui lui conteste justement le versement de ce 35 000 $-là, donc en dommages, intérêts, compensatoires à Jérémy Gabriel parce qu'il a ri de lui dans un de ses numéros. Mike Ward, lui, dès le début, là, je me rappelle, lorsqu'il avait eu la première décision, avait dit « Je désire porter l'affaire devant le plus haut tribunal du pays après qu'il ait été débouté en cour d'appel. » Et tu vois, je m'amusais à lire un peu sur Internet aujourd'hui les réactions suite à cette annonce-là. Et il y a énormément d'avocats, d'avocates en litige qui disent que c'est une très bonne chose que cette décision-là se rende devant le plus haut tribunal du pays parce que ce serait une cause d'importance. Donc oui,
ça va permettre de clarifier certaines choses.
Voilà. Fait que, oui, on parle de Jérémy Gabriel, oui, on parle de Mike Ward, mais plus important que ça, on dit que ça pourrait faire cas d'espèce. On dit que ça pourrait, parce que ce cas-là a des faits très particuliers et que ça pourrait délimiter certaines règles, certaines lois qui feraient en sorte que dans le futur, ça, on pourrait se référer à ce jugement-là. Oui. On dit que ça pourrait permettre de mieux analyser, entre autres, les droits et les responsabilités de chacun et encore plus dans un contexte de création artistique, cette fameuse liberté d'expression-là, jusqu'où ça va quand c'est un propos avec, une idée artistique derrière, lorsque c'est une création.
Mais qui peut heurter des gens et
c'est
jusqu'à
ça.
Quel point on peut heurter quelqu'un et
en évoquant
où c'est
la
permis
liberté
ou ça
l'est
pas. Et voilà.
Exactement. Voilà. Fait que ça va être un dossier à suivre. Selon les experts que j'ai lus sur Internet, tous les avocats de ce monde et les jurys ont dit que ce ne sera pas avant au moins l'année prochaine qu'on va pouvoir entendre parler de ça à nouveau.
C'est sûr que c'est jamais... dès le lendemain en Cour suprême. C'est
et
ça,
voilà.
Ça suit son cours, comme
c'est
on dit. Les Emmys seront virtuels, on s'en doutait bien.
Oui, on s'en doutait bien, on s'entend. Cette semaine, on a annoncé les nominations pour les 72e cérémonie des prix Emmys. Et c'est Jimmy Kimmel lui-même qui a annoncé à tout le monde ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'à tous les artistes sélectionnés, dont la liste a été dévoilée mardi dernier, on les a informés qu'il va y avoir bel et bien une série et qu'il va y avoir des équipes qui vont les filmer chez eux. On ne sait pas encore de quelle manière ça va se faire, mais lui a dit, écoutez, peu importe où vous allez être, si vous êtes chez vous, vous vous habillez comme vous le désirez, si on vous prend à 3 heures du matin en tournage au Royaume-Uni, puis que vous êtes en pyjama, on vous prend ainsi. On
et va qui ont des budgets.
Et c'est incroyable.
Qui ont de l'argent. Mais c'est fabuleux.
J'ai pensé la même affaire que
c'est
toi.
C'est fabuleux.
Mais c'est extraordinaire de pouvoir nous donner accès à ça parce qu'on s'entend, on va faire preuve de créativité puis peut-être qu'on va nous montrer nos acteurs, nos actrices, nos réalisateurs favoris dans des contextes tout autres, dans leur maison ou dans des lieux cocasses.
En pidge, en
mou, comme on a vécu toute la pandémie.
Avec des belles grosses pantoufles.
Ouais, c'est ça, exactement. Fait que la crise sanitaire qui transforme la traditionnelle soirée, mais règle générale, les Emmys, c'est fait pour s'amuser quand même. Ben, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de coquins dans cette industrie qui vont s'amuser avec les tenues qu'ils vont porter, puis qui vont s'amuser à nous présenter des choses un peu cocasses.
Et je doute qu'une Laura Dern, par exemple, soit en bigoudi.
Ça me surprendrait bien.
Je pense que même, sachant ça, là, je pense qu'ils vont s'organiser pour...
Je suis pas mal certaine.
Manucure, pédicure et la totale.
Je pense que ça va être une soirée à ne pas manquer le 20 septembre prochain, ne serait-ce que pour savoir comment est-ce qu'on va présenter nos récipiendaires de prix. Je pense que ça va être intéressant.
L'affaire Julien Lacroix continue de faire couler de l'encre.
Hier, l'ex-amoureuse de Julien Lacroix, qui s'appelle donc Geneviève Morin, c'est la même qu'on a pu lire dans Le Devoir lundi dernier. Dans Le Devoir, qui, je vous rappelle, présentait le témoignage de 9 victimes présumées de Julien Lacroix. On lui reproche des inconduites et agressions sexuelles. Geneviève Morin faisait partie de cet article-là lundi dernier et elle a décidé de partager un long texte qui, je te l'avoue, Marie-Claude, est assez poignant.
Je l'ai lu.
Tu l'as lu toi aussi?
Je l'ai lu. C'est très poignant parce que ce qu'elle décrit, c'est finalement, tu fais quoi quand l'homme qui t'agresse et ton grand amour.
Voilà. Ça a été partagé sur la plateforme Urbadien et ça a été vraiment beaucoup partagé sur les réseaux sociaux par la suite. Comme tu l'as dit, ce qu'elle dit, c'est que comment on réagit quand l'amour de notre vie, c'est aussi son pire ennemi. Mm-hmm. Mais je t'aime, mais en même temps, comment oublier toutes les pleurs que j'ai retenues, les longues conversations épuisantes et émotives sur ton problème d'alcool? Comment oublier le soir où tu étais tellement emportée par la colère que tu en es venue au cou? Et elle a expliqué aussi et surtout pourquoi elle est restée en couple avec lui pendant 6 ans? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est une des questions que les gens se posaient beaucoup.
Comment toujours. On fait? Et toujours. Voilà. Pourquoi les gens, des femmes intelligentes, des femmes solides, vont demeurer dans des relations comme ça?
Et voilà. Et ce à quoi... Ouais. Quand c'est notre meilleur ami qui nous fait du mal, puis quand c'est l'amant amoureux qui s'en veut, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez lire le texte, parce que même à la fin, là, elle fait appel à notre réflexion en se disant peut-être que cette vague de dénonciation-là, c'est plus grand que juste une vague de dénonciation. Peut-être qu'il y a un problème de société à travers tout ça.
Ça mérite un petit silence. J'avoue que j'ai trouvé ça moi aussi très, très touchant comme témoignage. Oui. Sur une note plus joyeuse, quoique dans une forte intensité, Rémi Girard sera dans District 31.
Eh oui, on a appris ça aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, je pense. District 31, les tournages ont repris le 13 juillet dernier et on a appris que Rémi Girard va incarner le grand patron des services secrets dans la série policière. On va donc découvrir celui qui serait à l'origine d'importantes décisions, dont celle de l'assassinat de Christian Faneuf, qui était joué par Emmanuel Auger. Et on pose la question, est-ce également lui qui a décidé d'engager Laurent Cloutier, interprété par Patrick Labbé. Je pense que c'est comme une genre de petit twist qu'on veut amener pour faire en sorte que les 4 derniers épisodes de la 4e saison qu'on tourne en ce moment, parce que ça avait été interrompu par la COVID-19, je pense qu'ils vont nous avoir pas à peu près avec ces épisodes-là l'automne prochain. Puis en passant, quand à la saison 2020-2021, les tournages vont se poursuivre d'ailleurs au niveau des prochaines semaines, qu'on va pouvoir suivre ça.
Ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien d'entendre toute forme de retour à une forme de normalité. Valérie, un film québécois qui reçoit des éloges à l'international.
Le film Nadia Butterfly, qui met en vedette la nageuse Catherine Savard, qui est une vraie nageuse olympique en passant. En ce moment, là, partout sur la planète, c'est la folie. Il y a le magazine The Hollywood Reporter. Il y a aussi un site spécialisé dans les films qui s'appelle IndieWire. Des deux côtés, on fait que des éloges pour ce film de Pascal Plante. Ça tombe bien parce que c'est au même moment où on annonce la sortie partout au Québec le 18 septembre prochain. C'est l'histoire d'une nageuse olympique qui est jouée par Catherine Savard qui se prépare pour les derniers Jeux olympiques de sa carrière. On dit que son jeu est tellement bon, tellement à point, tellement juste que ça fait comme si ça donnait un aspect documentaire au film. On dit que c'est un film formidable, un drame sensible sur le passage à l'âge adulte. Un autre film québécois qui résonne partout à l'international, c'est quand même toujours une bonne nouvelle.
Je suis d'accord. Aussi, ça fait du bien. Et Michel Tremblay à l'international.
Ben, je termine avec ça.
Particulier comme situation.
Eh oui, moi aussi, je trouve ça incroyable. Oui. Puis la version brésilienne de Belle-Sœur, okay, qui s'appelle As Comadres. Ça devait être présenté en France. Et là, ça avait été reporté, bien évidemment. Mais là, c'est confirmé. C'est bel et bien reporté. Puis ça va bel et bien être présenté en juin 2021 au Théâtre national populaire de Villeurbanne. C'est près de Lyon. Écoute, c'est vraiment la version brésilienne de la comédie musicale de René Richard Cyr avec Daniel Bélanger, d'après la pièce de Michel Tremblay. Puis on dit qu'on a gardé décor et costumes identiques, les déplacements sans modification. Je trouve ça incroyable. Je veux dire, une œuvre québécoise
qui ne vieillit pas. C'est sûr qu'on n'a plus les Time Gold Star de l'époque, là, où est-ce que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, enfin bref, s'achetaient des petits cadeaux, avaient des cadeaux en échange de ces timbres-là. Mais la société a quand même. L'humain demeure l'humain.
Oui, c'est ça. C'est comme un portrait de société, un portrait de famille et d'amis. Puis je trouvais ça impressionnant, quelque chose du Québec, qui a une version brésilienne qui va être présentée en France. Bravo. C'est la preuve d'une grande œuvre.
Ouais. Et en terminant, je suis tombée sur un article où il était question de Balconville version COVID et Balconville version Michel Tremblay. Comment à l'époque, les femmes, effectivement, tout le monde se parlait d'un balcon à l'autre, puis ça veillait sur le balcon, puis tout ça, alors que pendant la COVID, il y avait des gens sur le balcon, mais oui, en Italie, tout le monde se parlait, puis se passait des verres et tout ça, mais il y avait quand même plus d'isolement, on dirait, dans la société d'aujourd'hui.
Bien d'accord avec toi. On devrait prendre peut-être image, on devrait se rappeler de ce qui s'était passé auparavant.
Merci beaucoup, Valérie Roberts. Je te souhaite une belle soirée.
Merci, toi aussi.
Et au nom de toute l'équipe de Jean-Christophe, d'Alexandra, de François, je vous souhaite à vous tous aussi à la maison ou en voiture une magnifique soirée. On se retrouve demain, 15h.